grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et ce matin, nous recevons un trio de choc, trois amis en quête de sagesse qui nous promettent de devenir plus libres, de nous libérer de nos prisons personnelles, ces prisons qui nous empêchent d'accéder à un apaisement intérieur, une liberté intérieure qui nous permettrait d'apprivoiser nos souffrances, de tourner le dos aux constructions intellectuelles imaginaires qui nous entravent, comme nos peurs, nos angoisses, nos dépendances ou encore nos préjugés. Nous verrons ce matin ce qu'est la liberté intérieure. Est-ce d'ailleurs une illusion, comme le pensait Spinoza, le philosophe hollandais, estimait par exemple que nos croyances sur la liberté nous empêchent d'être réellement libres. Nous verrons quels sont les principaux obstacles à cette liberté, quelles sont les voies pour y accéder durablement. Avec nous donc ce matin, le moine bouddhiste tibétain Mathieu Ricard, le philosophe Alexandre Jolien et avec nous bien sûr notre psychiatre Christophe André. Vous pouvez leur poser toutes vos questions au standard de France Inter 01 45 24 7000, mais également sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse, une émission diffusée ce matin en Facebook Live. Nos trois invités répondront également aux questions pertinentes de Christina Pelédouel de Psychologie Magazine et de Marie-Laure Zonshein de Femme Actuelle. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Bonjour Mathieu Ricard.
Bonjour.
Bonjour Alexandre Jolien.
Bonjour.
Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Alors après le succès éditorial de Trois Amis en quête de sagesse, vous récidivez avec À nous la liberté, coédité par Alary Édition et Iconoclaste. Vous n'aviez pas tout dit dans le précédent livre, Christophe André ?
Eh bien non, en tout cas, on pensait avoir tout dit ou tout dit ce qui pouvait être intéressant à entendre et puis on a continué de se voir, de papoter, de bavarder. Et un jour, Mathieu a dit « Oh, sortons un micro quand même pour voir si on ne pourrait pas se souvenir de nos bavardages, nos conversations. » Et peu à peu, voilà, on s'est aperçu qu'on avait encore des choses à se raconter, que peut-être ces choses pourraient éventuellement intéresser d'autres personnes. Et on s'est remis tranquillement, sans souffrir, au travail.
Alors ce livre est né à la montagne, dans un chalet en bois, niché au cœur des Alpes. Et lors de vos conversations, le thème de la liberté s'est imposé, Mathieu Ricard. Pourquoi la question de la liberté intérieure est-elle centrale pour tenter d'accéder à une forme de sagesse ?
Parce que tout en découle. Alors, on pense être libre. L'idée notamment que de faire ce qui me passe par la tête, c'est la liberté, c'est le comble de l'esclavage, parce que vous êtes l'esclave de toutes vos constructions mentales, vos habitudes, vos automatismes mentaux. Et donc on s'aperçoit que, ne serait-ce que nos jugements, notre façon de réagir au monde, tout ce qui, les ruminations, les espoirs et les craintes, nous conditionnent entièrement. Et donc cette liberté obscurcit notre jugement, nous trouble notre esprit, ce manque de liberté. Donc c'est clair que la liberté intérieure amène la sagesse, puisqu'elle amène une transparence, une lucidité, une clarté d'esprit qui n'est pas déformée par les distorsions de la réalité auxquelles on se livre habituellement.
Alexandre Jolien, vos trois regards se complètent. Le regard du moine bouddhiste, également docteur en génétique cellulaire, celui du psychiatre, et puis le vôtre, celui du philosophe. Et vous n'êtes pas forcément toujours d'accord ?
Oui, mais la question est troublante. Ce qui me touche, c'est ce qui nous réunit, c'est-à-dire l'altruisme, c'est-à-dire l'idée qu'on peut progresser même à l'article de la mort. L'homme, la femme, a la possibilité de progresser, ne serait-ce qu'en disant oui au monde. C'est super. Aujourd'hui, c'est le siècle de l'individualité. On doit être les meilleurs, on doit se distinguer des autres. Là, c'est un livre fabriqué à nous. Et c'était rigolo. Hier, on a passé toute la journée ensemble et on répondait. Justement, il n'y avait pas, pardon du mot, il n'y avait pas de concours de bites, comme on dit aujourd'hui. Il n'y avait pas, c'est mon idée, c'est la scène. Et je suis allé dans un magasin et j'ai croché, je suis arrivé contre une dame, par inadvertance, et j'ai dit « Excusez-nous !» J'ai trouvé génial. C'est-à-dire l'ambiance des trois potes c'est nous sortir de nous. Il n'y a pas un moi. Et donc, la différence, c'est qu'on a des parcours singuliers, qu'on a des éclairages différents, mais ce qui nous unit, c'est ça, c'est la volonté de progresser et puis d'aider les autres. Ça peut paraître pas prétentieux, mais c'est un élan qui déborde.
Et oui, aider les autres, parce qu'il y a une boîte à outils à la fin de chaque chapitre. Christina Pelédouel, journaliste à Psychologie Magazine, comment expliquez-vous le succès de leur précédent livre, Trois amis en quête de sagesse? Qu'est-ce qui fait la magie de ce succès?
Alors, je pense, je ne saurais pas expliquer pleinement le succès d'un livre. C'est très mystérieux. Il y a une alchimie qui se fait, mais je pense que il y a quand même quelque chose. C'est le fait qu'ils soient tous les trois réunis, parce qu'en effet, ils ont des regards convergents et divergents. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que dans leurs échanges, c'est pas une espèce de robinet d'eau tiède, mais parfois, je n'irai pas jusqu'à dire, pour employer des termes alexandriens, se friter, mais il y a des contradictions qui émergent. Et c'est ça qui est véritablement intéressant. Et puis, Mathieu Ricard descend parfois de son ermitage pour venir dans le monde séculier, mais Alexandre est en plein dedans, Christophe aussi, et donc ce mélange de quotidien et de recherche spirituelle et métaphysique, hein, j'ose le mot, je pense que c'est ça. Et puis bien sûr, chacun d'entre eux, de leur côté publiant, et sont connus, donc le mélange des trois, forcément, et ayant des succès, hein, tous les trois, je précise, les éditeurs les aiment beaucoup, donc je pense que les trois, ça fait l'affaire, quoi.
Allez, j'aimerais que vous écoutiez le sociologue Pierre Bourdieu en 1988 sur France Culture.
Je dirais que nous naissons déterminés et nous avons une petite chance de finir libres. Nous naissons dans l'impensé et nous avons une toute petite chance de devenir des sujets. Et ce que je reproche, enfin, à ceux qui invoquent à tout va la liberté, le sujet, la personne, etc., c'est d'enfermer les agents sociaux dans l'illusion de la liberté.
Tiens, Mathieu Ricard, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Pierre Bourdieu ?
Ben oui, ça fait partie d'un des obstacles à la liberté intérieure, qui est l'égarement. Parce que si on n'a pas une juste vision de la réalité, ben on peut inventer toutes sortes de choses. La liberté intérieure, c'est aussi un fait d'expérience. Quand vous savez qu'il y a quelque part, au fond de votre conscience, quelque chose qui est libre des conditionnements, que vous n'êtes pas forcément le jouet de l'animosité, de l'obsession, de l'arrogance, de la jalousie, et qu'il y a cette lucidité qui est présente, on peut vous raconter tout ce que vous voulez. C'est comme d'essayer de dire, ben non, là, il n'y a pas de loi de la gravité. Ben, on peut le dire, mais ça ne change rien.
Christophe André.
Bourdieu a raison quand même. Quand il dit nous naissons déterminés, entravés, contraints par le milieu, le lieu, l'époque de notre naissance, et nous avons une petite chance de finir libres. C'est un petit peu ce dont nous parlons dans le livre. C'est-à-dire, la liberté, c'est un idéal vers lequel nous tendons tous. Et donc, on pourrait dire d'ailleurs qu'elle n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est le travail pour se libérer, pour se rapprocher du plus grand degré possible de liberté.
Alexandre Jolien.
Je crois que le propos de Bourdieu, c'est de montrer qu'il y a un itinéraire. C'est bizarre l'expression qu'il a utilisée, l'agent social. Aujourd'hui, on dirait peut-être pire, consommateur. Et justement, c'est tout un boulot intérieur que de s'arracher au déterminisme pour être des sujets. Et j'aimerais d'emblée tordre le cou. Aborder le thème de la liberté, c'est pas dire on va être planqué dans notre coin et on va regarder ce monde agité depuis un promontoire. Mais si on se libère, c'est pour être des individus et des êtres humains pour les autres. Mathieu, hein, c'est la quintessence de ça. Christophe aussi, on s'engage pour les autres. Donc la liberté, c'est pas un bonus qu'on va jouir à la maison devant un paquet de chips et en écoutant la radio, mais c'est en c'est pour être libre dans une société qui est souvent injuste.
Christine Lapelle-Edouelle.
Oui, c'est vraiment une grande question là, qu'on soulève, que j'ai posée aux trois amis au cours d'une interview, mais c'est la question des déterminismes sociaux, du milieu dans lequel on évolue, et de savoir s'il y a véritablement une possibilité ou si c'est une illusion d'aller vers une liberté personnelle et intérieure, alors qu'on est complètement conditionné par la société. On le voit bien en ce moment. Enfin, en ce moment, il y a des mouvements sociaux un petit peu partout. Et pas seulement par ça, il y a une autre question qui est très importante, qui est le déterminisme, j'allais dire, personnel, intérieur, c'est-à-dire la question des névroses. On en a tous, on le sait, nous sommes tous névrosés, plus ou moins. Et puis la question des maladies mentales, et ça c'est une question pour Christophe à laquelle il a beaucoup réfléchi.
Mathieu Ricard et Christophe André.
Oui, quand on parle des déterminismes sociaux, effectivement, notre deuxième chapitre, ou partie si vous voulez, c'est l'écologie de la liberté intérieure. À savoir qu'il y a des endroits qui favorisent ou défavorisent. Si vous êtes dans un supermarché ou à Wall Street, il y a toutes les chances que vous allez être pieds et poings liés devant cet esprit de consommation matérialiste. Si vous êtes face à l'Himalaya, il y a un peu plus de possibilités pour vous libérer. De même, les liens personnels. Comme Alexandre parle, des personnes, des amis dans le bien qui vous mènent vers le haut, qui vous aident, et ceux qui vous tirent vers le bas. Et donc, si vous êtes entouré de personnes qui ne font que répandre le mal autour d'eux, il y a toutes les chances que ça dédaigne sur vous. Quoi.
Christophe André.
Oui. C'est la question des obstacles à la liberté. Donc, on a vu que la liberté, c'était plutôt un processus qu'un état permanent acquis pour toujours. Et dans ces obstacles, effectivement, il y a les obstacles intérieurs dont parlait Christina, notre passé, nos émotions, si nous ne savons pas les réguler, nos névroses, entre guillemets. Mais les obstacles environnementaux, certains fonctionnements de la société, notamment des sociétés extrêmement compartimentées, empêchant les individus d'accéder à certains droits, les sociétés plus mensongères, plus dissimulatrices, ces sociétés de consommation qui effectivement transforment les humains en consommateurs, ou les sociétés qui transforment les humains en travailleurs, mais en leur empêchant d'avoir toute forme d'autres droits, sont des environnements qui restreignent nos libertés.
Allez, vous pouvez poser toutes vos questions à Christophe André, Mathieu Ricard et Alexandre Jolien au 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Main Vous Fasse et l'appli France Inter. Vous pouvez regarder cette émission en direct sur Facebook. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Nicolas Bove, à la réalisation, Stéphanie Texier. Sync, Aretha Franklin et une chorégraphie en studio d'Alexandre Jolien.
Rousseau avait dit, l'homme est né libre, mais partout, il est dans les fers.
Grand bien vous fasse.
Ah non, ça suffit maintenant, j'arrête pas, vous allez en permanence.
Sur France Inter.
10h21 ce matin, Mathieu Ricard, Alexandre Jolien et Christophe André vous aident à cultiver votre liberté intérieure. N'hésitez pas à les interroger au 01 45 24 7000. Mathieu Ricard, question simple et complexe à la fois. Qu'est-ce que la liberté intérieure? De façon simple, Laure Aubert nous dit que la liberté, c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un ou qui n'est pas enfermée. C'est également la possibilité de pouvoir agir sans contrainte, de façon autonome. C'est quoi la liberté intérieure selon vous?
Je crois qu'on connaît à peu près la liberté extérieure, c'est de ne pas être prisonnier, empêché de s'exprimer. Ou tout. Bon, la liberté intérieure, c'est finalement la même chose transposée à notre propre esprit. On sait très bien que notre propre esprit peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Alors quand il est notre meilleur ennemi, notre pire ennemi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est le jouet de nos pensées errantes, de nos automatismes mentaux, de nos enchaînements mentaux. On ne peut pas s'empêcher d'entrer dans le jeu de l'attraction de la répulsion, de se dire sans ça, j'ai 100% plaisant, je ne peux pas être heureux. Si je ne me débarrasse pas de ça, je ne peux pas non plus être heureux. Donc toutes ces superpositions, ces déformations de la réalité nous asservissent et finalement se traduisent par du tourment. Donc se libérer de cela, c'est la liberté intérieure et c'est un espace beaucoup plus vaste.
Christophe André.
Oui, oui. C'est toute la question des contraintes, effectivement. Si on parle de liberté, ça sous-entend qu'il y a aussi des absences de liberté, c'est-à-dire des servitudes, des contraintes, et donc des pertes en matière de choix. La liberté, c'est avoir le choix, mais pour que le choix existe, il faut qu'il y ait véritablement des options. Nous n'avons pas la liberté de voler, puisque la pesanteur nous entraîne au sol. Il faut qu'il y ait des options, il faut que je sache qu'elles existent, il faut que j'ai l'énergie pour choisir entre ces différentes options. Donc c'est tout un travail psychologique sur lequel nous avons beaucoup réfléchi dans le bouquin.
À propos de travail psychologique, Mathieu Ricard, on ne naît pas libre, on peut le devenir grâce notamment à un entraînement de l'esprit.
Si vous voulez, si tous ces asservissements sont des mécanismes mentaux qui se sont formés un peu comme des plis dans un rouleau de parchemin, pensée après pensée, émotion après émotion. Donc il n'y a pas de recette magique. Hein. C'est pas en 3 recettes et 7 jours, vous n'allez pas y arriver. Si on vous dit ça, c'est louche, c'est du pipeau. Donc c'est de nouveau, pensée après pensée, émotion après émotion, comment faire, non pas pour les supprimer, mais pour les laisser se libérer d'elles-mêmes à mesure qu'elles surviennent et à éroder ces tendances qui font que vous tombez encore dans cette espèce d'addiction aux causes de la souffrance qui est notre état ordinaire.
Alexandre Jolien, pour accéder à la liberté intérieure, il est possible tout de même de s'appuyer sur, évidemment, des ressources insoupçonnées, mais également sur nos traumatismes, nos blessures, nos dysfonctionnements, nos lacunes, nos carences.
Merci. J'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelle La Pharmacopée. J'ai ouvert un compte Instagram le jour où je suis monté dans un bus bondé. Il y avait des adolescents de l'âge de ma fille, 14 ans, qui se sont foutus de ma gueule. Et là, donc, j'étais pas libre parce que j'étais dans la projection, j'étais dans la souffrance. Et aussi, j'ai pensé quel regard ces jeunes personnes projettent sur une personne handicapée. Donc, ce jour-là, c'était un traumatisme réitéré. Il faut aussi parler des personnes handicapées, des étrangers, de tous ceux qui échappent à la norme, peu ou prou. Quel regard on jette sur eux? Et la liberté, c'est à la fois intérieure, dire que le regard de la jeune fille qui s'est moquée de moi dans le bus ne touche pas la partie indemne qui est en nous, mais à la fois la comprendre. C'est ça qui est magique. Nietzsche parle beaucoup du ressentiment. C'est tellement facile de tomber dans le ressentiment, de tomber dans la colère. La liberté, pour moi, c'est s'affranchir de tout ce qui nous tire vers le bas, vers le putain de narcissisme pardon d'employer le mot, mais je trouve que c'est le monde à l'envers. Si on promeut des conneries comme ça, pardon. Alors là, typiquement, je m'emporte. Putain, je suis plus libre. Donc on va revenir sur terre. Je vais dire la liberté, c'est s'affranchir de tout ce qui nous tire vers l'égoïste et vers la tristesse. Pardon, je suis un peu chaud, c'est la musique.
C'est Aretha Franklin, tout ça c'est à cause d'Aretha Franklin. Bonjour Marie, bienvenue, vous appelez de Nantes.
Oui, bonjour.
Alors, quelle est votre réflexion sur notre sujet du jour?
Écoutez, vous parlez de liberté intérieure, je suis une vieille dame, je fais de la méditation depuis 8 ans, et ça m'a porté énormément. Actuellement, je suis submergée par les problèmes matériels et je ne peux même plus aller à mes séances de méditation, en faire chez moi même, tellement c'est j'ai l'esprit embourbé dans tout ça.
Christophe André, c'est intéressant ce que nous dit Marie hein, sur ses préoccupations matérielles quotidiennes qui empêchent à Marie d'accéder à une forme de liberté intérieure.
Bien sûr, oui, oui, mais c'est toute la question de l'enracinement de la liberté intérieure ou pas dans la réalité. C'est-à-dire la vie, effectivement, nous expose à tout un tas d'adversités. Marie parle de l'adversité matérielle, Alexandre parlait de l'adversité relationnelle, le rejet, les moqueries, etc. Et la question, c'est de savoir quelle est notre part de liberté par rapport à ça. Au fond, dans les deux cas, on voit bien que face à ces agressions du réel, on est à un carrefour. Soit on reste accroché à ces agressions, on s'enferme, on les ressasse, on les rumine, on est blessé par elles et on en reste prisonnier. Soit on essaie, je ne dis pas que c'est facile ni simple, soit on essaie de se dire « Ok, le réel me blesse, me heurte, me contraint. Quel espace de liberté reste possible à l'intérieur de moi-même ? Ne pas me focaliser seulement sur ça, mais garder des pans de ma vie plus légers. » Alors ça, évidemment, c'est l'idéal. Je ne dis pas ni à Marie ni à Alexandre que c'est quelque chose de facile, mais je crois que c'est quelque chose de vital.
Marie ?
Oui ?
Est-ce que vous avez envie de réagir à ce que vient de nous dire Christophe ?
C'est vrai que c'est, je fais tout ce que je peux pour me libérer de tout ça, mais c'est, je n'y arrive pas. Voilà, c'est ça, tout simplement. Alors c'est vrai que Mathieu Ricard n'a pas de problème matériel, j'imagine. Il a, mais la majorité des gens actuellement a beaucoup de problèmes et j'ai du mal à même à entendre votre discours parfois.
Mathieu Ricard.
Oui, alors évidemment, dans une situation qui est la vôtre, ça serait tout à fait déplacé de vouloir vous dire « vous n'avez qu'à vous détendre et retrouver la liberté en vous ». Il est évident qu'il y a des circonstances extérieures qui sont si contraignantes qu'elles éclipsent les efforts que l'on pourrait faire intérieurement. Vous dites que j'ai pas de problème matériel. Alors, c'est pas pour donner encore une fois des leçons. Ça a aussi été un choix de vie. C'est vrai que pendant une vingtaine d'années, j'ai vécu en Orient dans un ermitage où j'avais l'équivalent de 50 euros par mois, ce qui serait totalement impossible de vivre ici avec cette somme. Pour moi, c'était facile, mais simplement, voilà, c'est certainement pas quelque chose qui s'applique à tout le monde et c'est pas une façon de donner des leçons, non, certainement pas à vous, madame, et je comprends très bien. Donc, la liberté intérieure aussi doit donner une force pour agir pour la justice sociale. Personnellement, au travail de l'association qu'on a fondée en Inde, nous aidons aujourd'hui 250 000 personnes qui sont démunies en Inde, au Népal et au Tibet. Donc, il faut absolument remédier aux souffrances du monde. Et plus on est libre intérieurement, plus on est disponible à l'autre.
Chrissy Lapelle-Edouel.
Oui, mais j'entends très bien ce que dit Marie. Et en effet, nous sommes travaillés par le réel. On n'est pas toujours en état de travailler sur cette histoire du réel. Le réel nous envahit et c'est extrêmement compliqué quand on est en état de faiblesse matérielle et personnelle d'arriver à trouver le chemin. C'est un effort considérable et j'ai la faiblesse de penser que la question politique et la question économique jouent un rôle absolument essentiel dans cette histoire-là, qu'on ne peut pas être libre intérieurement si on n'est pas libre matériellement et pas libre politiquement.
Marie-Laure Zonshine de Femme Actuelle.
Oui, d'abord, je voudrais quand même rappeler qu'il y a un prérequis capillaire. N'oublions pas quand même, face à nous, on a trois hommes qui sont pas forcément échevelés, donc je sais pas si c'est un des critères à prendre en compte. Non, mais plus sérieusement, pour rejoindre ce que dit Christine Lapelle-Edouard, il y a le temps quand même, il est nécessaire pour vous parler d'affreux d'obstacles, de peurs, de préjugés, de pesanteurs sociales. Il faut aussi en passer par là pour se dire, arriver à ce cheminement intellectuel qui est « j'ai besoin de cette liberté ». On en prend conscience parce qu'elle est entravée. Donc on passe par ces moments-là, et est-ce que, comme dit Bourdieu dans l'extrait que vous avez passé, on finit libre, autrement dit, dans une dernière partie de sa vie ou une deuxième partie de sa vie, et pas avant?
Vous savez, sur finir libre, il faut prendre le chemin qui mène à la liberté. C'est comme pour le bonheur. Si on lui tourne le dos constamment et qu'on perpétue les causes de la souffrance, ben c'est comme de mettre sa main dans le feu et vouloir ne pas être brûlé. Donc c'est là où le discernement, c'est là où la sagesse, c'est là où la compréhension des mécanismes intimes de la liberté et de l'asservissement viennent en jeu. Donc, il y a un élément qui semblait moins évident à mes chers amis, c'était celui de l'aveuglement, qui pour moi est l'obstacle ultime à la liberté intérieure.
C'est-à-dire ?
Parce que si on cherche la liberté ailleurs, là où elle se trouve, c'est forcément qu'on n'y arrivera pas.
Merci beaucoup Marie d'être intervenue ce matin dans Grand Main Vous Fasse. Alors Christophe André, parfois quand vous observez votre vie, vous vous demandez si vous êtes vraiment libre, si vous ne ressemblez pas plutôt à la vache dans le pré ou au coq dans le poulailler. Et je rappelle d'ailleurs cette citation de Spinoza, « Les hommes se trompent en ce qu'ils se croient libres ».
Oui, je pense que le sentiment de liberté, bien sûr, est quelque chose de très important, mais qu'il peut aussi être trompeur. Quand je suis dans un grand magasin, effectivement, je suis libre d'acheter ce que je veux, si pour peu que j'ai un peu d'argent sur mon compte. Quand je suis face à Internet, je me crois libre d'aller surfer sur les sites que je désire, mais en réalité, cette liberté n'est que de façade. Je suis en permanence manipulé par cet environnement. On parlait tout à l'heure des agressions de l'environnement, la pauvreté, la violence sociale, mais il y a aussi les manipulations qui sont peut-être un obstacle encore plus grave à la liberté. Donc attention à cette liberté intérieure, nous devons en prendre soin en sachant quel est l'objet de manipulation de cette société de consommation, de cette société digitale, extrêmement sévère, qui peuvent me conduire à de l'aliénation, à des dépendances. Donc vous voyez, c'est un boulot permanent. Et cette image de la vache dans son pré, je me dis attention, ne sois pas comme la vache dans son pré. Elle se croit libre, elle peut aller brouter un peu plus à droite, un peu plus à gauche, mais au fond, est-ce que c'est cette liberté-là dont tu rêves ?
Juste une petite chose pour Marie encore. Il faut pas opposer liberté intérieure et extérieure. Moi, je suis totalement en faveur de la liberté extérieure, de faire tout ce qu'il faut. Et quand j'ai vu les chiffres d'Oxfam récemment, que 20 milliardaires au monde possèdent la même fortune que la moitié de l'humanité, on a une indignation prodigieuse vient en moi. Donc, mais ce n'est pas deux choses incompatibles. Ce n'est pas deux combats qui doivent être menés séparément, et en négligeant la liberté extérieure et d'apporter le bien autour de soi.
Allez, vous pouvez poser toutes vos questions à Mathieu Ricard, Alexandre Jolien et Christophe André au 01 45 24 7000.
Tu peux éteindre la lumière. Tu peux danser tant que tu veux et finir en poussière. Je retiendrai tant que je peux tes mains dans l'atmosphère. L'odeur des joints tous les matins me fout en l'air. Tu veux toujours me plaire en tes leçons tant que tu peux. Et jamais me faire taire, je l'écouterai tant que je peux. Ton hymne militaire, ta voix parfois, dès le matin, me fout en l'air.
Holidays, interprété l'odeur des joints. Pourquoi vous me regardez comme ça, Mathieu Ricard? Vous avez déjà fumé des joints?
Non, j'ai jamais fumé de cigarette. J'ai essayé une fois, j'ai manqué m'étouffer.
Ali Rébéi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
10h37 et ce matin, Mathieu Ricard, Alexandre Jolien et Christophe André vous aident à cultiver votre liberté intérieure. N'hésitez pas à leur poser toutes vos questions au 01 45 24 7000. Écoutons le philosophe et hypnothérapeute François Roustan.
Qui aime la liberté?
Faut peut-être d'abord passer par la libération.
Ou qui aime la libération? Qui aime la libération? Quand la liberté se profile à l'horizon, je tiens à vous dire qu'il n'y a plus personne, hein.
Non.
Et on le voit précisément, je le vois tous les jours, même en thérapie. La peur du changement, la peur d'une libération d'impératifs familiaux, sociaux, etc., est radicale. Les gens s'arrêtent. Ça, Freud et les psychanalystes le savent depuis longtemps. Personne ne veut changer. Donc surtout pas être libre.
François Roustan, 1994, sur France Culture. Christophe André, vous êtes d'accord avec cette idée que nous sommes nombreux à avoir peur de cette liberté intérieure? Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, pour vous, l'un des grands obstacles de cette paix intérieure, eh bien, c'est la peur. Et d'ailleurs, Mira Jeanne nous dit par courriel, le premier frein à ma liberté, ce sont mes peurs.
Oui, oui, oui. Alors, c'est une belle idée, hein. On a tous peur du changement et finalement, on fait tout pour ne pas être libre. Je pense qu'elle est en partie fausse et c'est comme toutes les idées séduisantes. Il faut quand même le mettre un petit bémol. D'abord, on n'en sait rien. Hein. Quel est le pourcentage des humains qui désirent la liberté ou ceux qui en ont peur? Je crois que ça dépend beaucoup des moments de notre vie, des libertés dont il est question. Bref, les humains ne cherchent surtout pas à être libres me semble contestable. Par contre, là où Roustan, qui était un grand thérapeute, met le doigt sur quelque chose d'important, c'est que parfois, nous savons vers quoi nous aimerions aller, nous devrions aller, et on n'y va pas. On n'y va pas parce qu'on peut avoir peur, effectivement. C'est vrai que liberté et responsabilité, liberté et angoisse, les philosophes nous ont montré ça depuis longtemps, depuis Kierkegaard et Sartre vont de pair. Si je suis libre, je suis responsable, et donc responsable de mes choix, et je peux avoir peur de faire des choix, de ne pas faire des choix, c'est un certain confort, donc ça, c'est réel, effectivement.
Mais vous écrivez que la peur, c'est peut-être l'une des émotions les plus inhibitrices de liberté. C'est pour vous la mère de toutes les émotions douloureuses, de toutes les passions tristes.
Oui, oui, alors c'est peut-être une déformation, parce que j'ai passé ma vie de thérapeute à soigner des gens qui souffraient de peur excessive, d'angoisse ou de phobie, mais tout de même, lorsqu'on a peur, j'allais dire lorsqu'on a trop peur, effectivement, comment ça se passe dans notre esprit? Eh bien, d'abord, on passe beaucoup de temps à focaliser, obséder, à surveiller ce qui nous fait peur, le regard de l'autre, la survenue de tel ou tel événement, de telle chose imprévue. On organise sa vie pour ne pas être exposé au risque, et donc là, nous nous enfermons nous-mêmes. Et c'est vrai que cherchons nos peurs et nous verrons quels sont les combats que nous avons à mener pour notre liberté.
Mathieu Ricard.
Je trouve qu'une affirmation comme ça, c'est grave, hein, franchement. C'est comme si on disait à un galérien ou un esclave, attention, si vous êtes libre, vous serez au chômage et vous n'aurez plus rien à manger.
Tu parles de ce que dit Roustan?
Oui. Oui, oui.
Mais comment travaille-t-on sur ces peurs qui empêchent d'accéder à la liberté intérieure, Christophe André?
D'abord, il faut les identifier. Le problème de nos peurs, c'est lorsqu'elles se font passer pour des faits réels, des faits avérés. Si j'ai peur du jugement d'autrui, je vais chercher dans chaque regard des personnes que je vais croiser la désapprobation ou le jugement. Et parfois, cette désapprobation ou ce jugement peuvent exister, mais souvent, elles n'existent pas. Les gens ne s'occupent pas forcément de nous, ou les gens pensent à leurs propres problèmes plutôt qu'à porter des jugements sur nous. Donc déjà, croire que ma peur est la seule grille de lecture du monde. Et puis le deuxième, donc faire attention au fond à moi-même. Et puis la deuxième direction, c'est tester. essayer, sortir de ma seule lecture du monde pour expérimenter ce qui se passerait vraiment si j'osais faire telle ou telle chose. Et ça, c'est compliqué parce que c'est une expérience à mettre en œuvre dans ma vie qui me coûte cher émotionnellement. La peur, c'est une douleur et donc ça revient à marcher sur des braises, mais pour m'apercevoir peut-être que finalement mes pieds ne sont pas brûlés, que les braises n'existaient pas ou étaient tout à fait traversables.
Mathieu Ricard, il est important d'élargir son attention, de dézoomer l'objet de sa peur, de son angoisse.
En physique, il y a ce qu'on appelle les degrés de liberté. Vous avez le choix entre A ou B. Et ça, c'est on est très peu libre. Je crois qu'ouvrir notre espace intérieur a toutes les possibilités.
Comment
tous les points
s'y prend
de vue.
Comment s'y prend
un immense espace. Donc du coup, tout ce qui se passe prend place dans cet espace et donc vous êtes moins vulnérable. Et si vous êtes moins vulnérable, vous êtes plus ouvert et disponible aux autres. Vous êtes plus libre.
Christine Lapelle-Edouelle.
Oui, pour revenir une seconde à ce que dit François Roustan, et il pose quand même la question des résistances, et ce n'est pas une petite question, hein, les résistances psychiques, c'est un problème que nous connaissons tous, nous sommes tous confrontés à ça, et on ne peut pas en faire l'économie. Nous résistons en effet au changement, et c'est la question de l'inconscient aussi. Mmh. Cette question-là ne peut pas être évacuée juste par la volonté. L'inconscient et la volonté ne fonctionnent pas en même temps. En revanche, on peut avoir la volonté de sortir de ça, mais la volonté ne suffit pas à réussir à être libre. C'est pas vrai.
Christophe André. Mathieu Ricard.
Cette histoire de résistance, c'est finalement, il y a effectivement une inertie face au changement. Parce qu'on dit, qui sait ce que ça pourrait être? Ça pourrait être pire. Donc, on préfère bricoler dans une situation fondamentalement insatisfaisante. Mais de là à dire qu'on peut pas être libre, c'est bon, je vais jamais enlever le sparadrap, parce que ça fait mal quand je le tire.
Mais Roustan ne dit pas ça.
Vraiment, là, c'est pas possible, quoi.
Alors, vous revenez dans votre ouvrage sur un autre grand obstacle à la liberté intérieure, c'est l'acrasie, c'est-à-dire la faiblesse de la volonté. Alexandre Jolien, c'est quoi l'acrasie? Moi, je connaissais la procrastination, mais c'est quoi l'acrasie?
L'acrasie, c'est un terme qui vient des Grecs, ça veut dire le non-pouvoir. Je veux changer, je veux le mieux, je veux le meilleur et je fais le pire. Typiquement, moi, j'ai eu des problèmes de santé assez importants, j'ai dû maigrir, et j'ai été à la librairie, j'ai acheté un paquet de livres sur les régimes, et j'ai fini devant la télé avec un paquet de chips. Typique, acrasie, j'ai la meilleure volonté du monde, et tac, l'épreuve du quotidien, l'épreuve de la résistance et des forces d'inertie fait obstacle au projet, oui.
Christophe André, l'acrasie, c'est je veux, je peux, mais je ne veux pas. Ça ressemble un peu à la procrastination.
Oui, c'est l'état général. C'est-à-dire, je sais ce qui serait bon pour moi. J'en serais capable, parce que le prisonnier enfermé dans sa prison n'est pas acrasi, qui voudrait bien sortir, mais il ne peut pas. Je sais ce qu'il faudrait que je fasse, je pourrais le faire, et je me vois ne pas le faire. Et donc, là aussi, c'est quelque chose qui surgit tous les jours, constamment, cet écart entre notre bonne volonté, les idéaux, les désirs, et puis les difficultés à l'accomplir. Alors là, effectivement, il y a tout un tas d'options pour expliquer ça, soit la force de l'inconscient dont parlait Christine Lapelle-Edouelle, soit aussi la mauvaise organisation de nos efforts. Effectivement, souvent, on ne s'y prend pas correctement.
Mais
par rapport à l'accomplir.
L'autre, hein.
Et les deux sont probablement à l'œuvre, chacun de son côté.
Mathieu Ricard, c'est une forme de paresse, hein, oui. Qui entrave pour vous notre liberté.
Dans le bouddhisme, c'est une des trois formes de paresse. L'une, c'est d'en faire le moins possible, ça c'est la paresse classique. La deuxième, c'est un petit peu les gens qui disent on ne peut pas être libre. C'est renoncer à la course avant même d'avoir franchi la ligne de départ, parce que on a moins à faire d'efforts. Et la troisième, c'est de savoir ce qui est vraiment important, mais de faire 100 petites choses qui sont soit sans intérêt, soit qui vont à l'encontre de nos buts.
Certains pensent au contraire que la paresse, l'oisiveté, sont des états d'esprit qui permettent d'affirmer notre liberté. Comme le défend par exemple le Britannique Tom Hodgkinson dans L'art d'être oisif dans un monde de dingue. Christophe André.
Alors, ça aussi, moi j'ai du mal avec ces théories de dire au fond, tout ce qui sent la sueur, c'est moins bien. Il y a un chic quand même. Honnêtement, il y a un chic dans nos sociétés, apparaître à l'aise. Au fond, celui qui atteint un objectif en disant « Oh, mais j'ai pas fait d'effort, c'est venu comme ça, j'ai laissé faire, j'ai lâché prise et c'est venu », eh bien, il est plus admiré que celui qui dit « J'en ai vraiment bavé pour l'avoir. Voilà, j'ai eu mes examens sans travailler », c'est plus chic que de dire « J'ai eu mes examens, mais j'ai bossé comme un âne ».
Et c'est également une forme d'élégance de pas montrer le travail, la sueur.
Alors, si, c'est, oui, mais dans ce cas, c'est la nage du cygne. Le cygne, on a l'impression qu'il avance sur l'eau comme ça, comme presque par magie, en inspirant, en expirant, il bouge pas. Et en dessous, ses petites pattes moulinent à toute vitesse. Donc, c'est peut-être de l'élégance, c'est peut-être aussi un mensonge social, parce que c'est plus valorisant d'être admiré pour son talent que pour sa capacité à l'effort. En tout cas, moi, ça me gonfle un peu, puisqu'on est dans une émission où on peut se lâcher, parce que je trouve que ça ne fait pas justice aux tâcherons.
Alors, comment on sort de cette acrasie, de cette faiblesse de la volonté? Qu'est-ce qu'on trouve dans votre boîte à outils, Christophe André?
D'abord, l'identifier, c'est dire, voilà, entre ce que je veux faire et ce que je me suis en train de faire, il y a cet écart. Et donc, puisque visiblement je n'y arrive pas, déjà fragmenter l'objectif en petites étapes. C'est un jour à la fois, un comportement à la fois, dans le cas d'Alexandre, pour tenter de moins grignoter, de moins regarder la télé, c'est se dire, bon, mais aujourd'hui, voilà, je fais ceci, je jette le paquet de chips, je ne me mets pas devant la télé, pour demain, je verrai bien. Donc c'est déjà la fragmentation. Ce qui nous décourage, c'est souvent de voir l'objectif dans son entièreté. Donc le fragmenter en petits sous-objectifs est un moyen.
Mathieu Ricard, pourquoi l'égocentrisme, l'hypernarcissisme sont-ils des obstacles à la liberté intérieure ?
Si vous êtes sentiment exacerbé de l'importance de soi et que c'est moi du matin au soir, vous allez totalement instrumentaliser les autres. Soit ils vont maximiser vos intérêts, soit ils sont une menace potentielle. Alors là, le monde, il est polarisé comme c'est pas possible. Et en plus, l'univers n'est pas un catalogue pour tous nos désirs et nos caprices. Donc c'est un manque, on est pieds et poings liés par les dictates de l'égocentrisme. Donc ça, c'est le manque de liberté par excellence.
Et puis surtout, dans l'égocentrisme, il y a une peur. La peur de ne pas recevoir tous les privilèges auxquels on
est vulnérable un maximum.
Ouais. Donc on est obsédé, on restreint une fois de plus sa vision du monde à obtenir des avantages, passer devant les autres, ne pas se faire avoir, et c'est un appauvrissement considérable.
Marie-Laure Zonshein, de Femmes Actuelles.
On sait qu'on apprend aujourd'hui à méditer à l'école, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Alors toutes les notions qu'on a évoquées ensemble ce matin, est-ce qu'on pourrait commencer justement auprès des jeunes générations à leur donner des pistes là-dessus pour réfléchir à cette liberté intérieure, combattre leur propre narcissisme naissant ou envahissant?
Moi, j'ai des amis instituteurs qui ont fait des ateliers philosophiques pour des enfants entre 6 et 10 ans et ils disent « c'est incroyable ». À quel point ils jouent le jeu à fond sur les notions de sagesse, d'honnêteté, de bonheur, enfin, sur la mort.
D'altruisme aussi, oui.
On occulte la mort, mais les enfants parlent beaucoup et s'interrogent. Donc ça serait une très très bonne chose. Et si on dit à des profs, on va prendre la méditation, on dit, oulala, attention, on va les mettre dans une secte. Je dis, vous savez, on va augmenter leur faculté d'attention, leur équilibre émotionnel et leur comportement prosocial. Tout le monde dit « Waouh, c'est génial, ça, comment est-ce qu'on fait ?»
Fatima nous dit sur la page Facebook « Ma peur, c'est de décevoir mon entourage. » Christophe André.
Oui, j'ai la même. J'ai toujours peur de faire du mal ou de décevoir. Et donc, bienvenue au club, Fatima. Et je crois que ça, c'est typique. Alors, par exemple, des peurs, des contraintes qui peuvent autant nous asservir que nous rendre service. La peur de décevoir son entourage peut beaucoup nous aider en nous poussant justement à nous améliorer. Moi, par exemple, quand j'ai eu des enfants, j'avais très peur de ne pas être à la hauteur devant elles et je me suis dit, il faut que tu t'améliores, il faut que tu sois moins grognon, moins stressé, etc. Et donc, ça a été une contrainte féconde. La peur de décevoir devient effectivement handicapante si elle inhibe notre spontanéité, si elle nous empêche de tester. Finalement, le grand danger avec ces peurs que nous avons dans la tête, c'est si on se contente d'écouter son petit ego au lieu de se dire « sois comme un scientifique ». Teste, va, agis, demande aux gens si ça leur a convenu, si tu les as déçus ou pas. Si c'est toi qui fais les questions et les réponses, « ah, tu as peur de décevoir, oui, tu as dû décevoir, je suis cuit ».
Alexandre Jolien.
Sur la peur, oui, je me disais intérieurement qu'il y a un paradoxe à la liberté. À la fois, il faut être totalement libéré du camp d'Iratan et totalement attentif et solidaire à l'autre. Et ça paraît contradictoire, mais au contraire, c'est pas de l'indifférence. Je trouve que c'est une sensibilité. Il y a un exemple que donnent les bouddhistes. Quand on rentre dans une pièce, est-ce qu'on se dit comment l'autre va me regarder ou qu'est-ce qu'on... J'ai tatoué sur mon bras une phrase qui m'aide beaucoup, c'est de Swami Prajnampad, ça s'écrit comme ça se prononce, et il dit « L'amour consiste à aider l'autre à relâcher ses tensions ». Et pour moi, ça commence peut-être aussi par soi. Qu'est-ce qui me détend profondément? Et Swami Prajnampad dit que l'éveil, c'est la complète détente au niveau psychique, physique et mental. Et en rencontrant l'autre, se demander qu'est-ce que je peux faire pour le détendre carrément.
Brigitte nous dit par mail, un bel exemple de liberté intérieure dans une situation d'adversité extrême, c'est Rosa Luxembourg dans son cachot. Il faut lire ses magnifiques lettres de prison. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Vous appelez de Loire-Atlantique et vous avez une question à nous inviter.
Oui, parce qu'on vous parlez d'éducation là pour des enfants. Moi, j'ai une maman qui a un garçon de 16 ans. Alors, eux vivent vraiment très simplement dans la simplicité écologique, etc. Et lui, son aspiration, 16 ans, c'est d'avoir une profession où il gagnera beaucoup d'argent. Et ça l'inquiète. Alors, comment peut-elle aider son fils à être clairvoyant sur le choix de sa vie future?
Et comment l'éduquer à une forme de liberté intérieure? Mathieu Ricard.
Il faut essayer de voir autour de soi. On voit des gens qui apparemment sont célèbres, beaux, riches, etc. Puis on apprend un jour qu'ils sont sous antidépresseurs, qu'ils ont essayé de se suicider. On dit, qu'est-ce qui va pas avec ce type-là? Si j'avais tout ça, bien sûr, je serais heureux. C'est simplement qu'on cherche le bonheur là où il ne se trouve pas et on tourne le dos aux valeurs intrinsèques de l'amitié, d'être bien en soi-même et toutes sortes de choses qui font qu'on peut s'épanouir dans l'existence. Donc c'est sûr que si on cherche le bonheur où il ne se trouve pas, on risque d'être déçu.
Merci beaucoup Marianne de nous avoir appelé. Alors pour accéder à la liberté intérieure, vous militez pour un entraînement de l'esprit. Ça consiste en quoi, Christophe André?
Bien, ça consiste à considérer que notre esprit ne nous obéira jamais au doigt et à l'œil, à moins que nous lui consacrions du temps, que nous nous entraînions. Par exemple, je peux pas demander à mon esprit de ne pas avoir peur, de ne pas ruminer, de ne pas être en colère. Ça marche pas comme ça. C'est pas comme demander à mon doigt de se lever. Ça marche assez bien. Ce que nous savons, les lois de l'entraînement de l'esprit nous apprennent qu'il est possible d'apprendre à réguler sa colère, d'apprendre à cultiver son discernement. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir parfait, mais ça veut dire qu'il est possible de se rapprocher du fonctionnement psychologique auquel nous aspirons en y travaillant.
Si je vous comprends bien, l'entraînement de l'esprit permet de moins souffrir, de moins faire souffrir et de cultiver ses qualités?
Oui, c'est ça, c'est trois objectifs excellents pour l'entraînement de l'esprit, effectivement.
La méditation, ça peut nous permettre d'entraîner notre esprit, Mathieu Ricard?
En fait, c'est le mot méditation est une traduction de termes orientaux qui veulent dire ça. Cultiver une qualité particulière, se familiariser avec la façon dont fonctionne notre esprit, sa nature profonde aussi. Et donc, c'est bien un entraînement, ça c'est clair, il n'y a pas d'autre mot.
Et rappelons que la méditation, c'est ne rien faire, mais le faire bien.
Oui, c'est une formule, mais en fait, on fait quand même beaucoup de choses, parce que, justement, c'est pas la solution de la paresse et de l'oisiveté. Les solutions faciles, ça ne marche jamais.
Tiens, si on méditait, Christophe André, donnez-nous peut-être quelques clés, si on veut faciliter la liberté intérieure. Vous pouvez regarder cette méditation en direct sur la page Facebook de France Inter.
Peut-être, pour les personnes qui nous écoutent et que ça amuse et que ça intéresse, voir les moments où nous perdons justement une partie de cette liberté, Alexandre en parlait tout à l'heure, c'est les moments où nous sommes prisonniers de nos émotions, très inquiets, très tristes, très en colère, c'est un enfermement. Et donc, à ce moment-là, ce que nous pouvons toutes et tous faire, assez simplement, quelques minutes, c'est nous dire, ok, là, cette émotion est très forte, elle m'habite, alors je me pose, je m'arrête, je m'assieds, et j'ouvre mon esprit, je permets à l'émotion d'être là, que faire d'autre de toute façon, et j'ouvre mon esprit à tout le reste. D'abord, je prends conscience de ma respiration, je reviens dans le réel, mon émotion elle peut m'emporter dans le virtuel, la respiration elle est dans le réel. Je note dans quel état est mon corps. Cette émotion, je suis en train de vivre, est en train de mettre mon corps dans quel état? Une barre sur la poitrine, des crispations. J'observe dans quel état sont mes pensées, vers quelle pensée me pousse cette émotion? C'est une émotion de colère, vers des pensées de que je n'ai pas de chance, que les autres sont méchants. Je note aussi toutes les impulsions qui m'habitent. Donc, voyez, la méditation, dans ces moments-là, c'est une ouverture. Et donc, j'élargis l'espace de mon esprit à d'autres choses que la seule émotion et tout ce que charrie cette émotion. Donc, d'une certaine façon, je le libère. Et puis, je continue en me demandant, mais finalement, cette émotion, est-ce qu'elle te rapproche de tes idéaux, ce qu'elle te dit de faire, donner un coup de poing sur le nez de la personne que tu as en face de toi, ou te suicider, ou te ronger les ongles, est-ce que ça te rapproche de tes idéaux, ou est-ce que ça t'en éloigne? Donc, c'est aussi, j'allais dire, c'est aussi simple que ça, bien sûr que non, Mathieu nous expliquerait, c'est encore plus compliqué que ça, mais c'est une première étape qui nous permet peut-être de voir en quoi s'arrêter pour prendre conscience et méditer, c'est un accroissement de notre liberté intérieure, là où suivre le flot de notre émotion est une réduction.
Mathieu Ricard.
Oui, bien sûr, c'est... Quand on dit se familiariser, ça peut être d'une part avec des qualités dont on a le potentiel, comme l'amour altruiste, mais qui sont encore à l'état dormant et qu'on va amener à un point optimal, on a toujours une marge de manœuvre. Ça peut être aussi se familiariser avec les enchaînements de pensées, parce que souvent quand on est l'esclave, on s'en rend à peine compte. Et ça peut être se familiariser avec cet espace de paix, de liberté, de sérénité, qui est un peu comme l'océan sous 1000 mètres en dessous des vagues, qui est présent, mais qui est souvent obscurci par le brouhaha, ce que Alexandre appelle radio mentale FM.
Et il est possible, vous le dites dans votre ouvrage, de faire 10 secondes de méditation toutes les heures. C'est ce que recommande par exemple Chad Meng, hein, un ancien ingénieur chez Google, et que ça a des effets, Mathieu Ricard. Bah, 10 à 20 secondes par heure.
Si vous ouvrez une bouteille de parfum, vous la refermez, en fait, ça dure plus longtemps que les 10 secondes.
Comment on sait, Christophe André, en guise de conclusion, que l'on accède à une forme de liberté intérieure?
On s'y approche. Un bon marqueur, c'est le bien-être. On se sent beaucoup mieux en liberté qu'en prison. On se sent mieux avec des émotions agréables que des émotions désagréables. On se sent mieux en paix avec les autres qu'en guerre. Écoutons nos ressentis intérieurs.
Merci à tous. Merci Mathieu Ricard, Christophe André et Alexandre Jolien. À nous la liberté est publié par l'Iconoclaste et à la réédition. Merci Christy Lapelle-Edouelle et Marie-Laure Zunshine. Demain, nous vous donnerons quelques clés pour donner confiance à vos enfants et à vos adolescents avec Charles Pépin, Gonel Boulet et Nadège Larcher. 01 45 24 7000. À suivre Nagui et sa bande originale. À la technique ce matin, Léo Prangère et Rémi Sistiaga.